Colloque éthique. Conclusion.
Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours sur le colloque éthique en direct ce mercredi 14 juin. Le thème du jour, comment expliquer la panne de production française? Quels sont les freins à la croissance? On a eu deux tables rondes ce matin que vous pourrez retrouver bien évidemment en replay pour ceux qui ont raté le début. Que faut-il réparer et comment? Comment valoriser, conserver nos entreprises en France? Voilà, débat passionnant qu'on va conclure avec nos invités sur le plateau. On est ravis d'accueillir Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Économiste, directeur du cabinet de conseil Asterès, cofondateur du Cercle de Bellem. Bienvenue à vous.
Merci.
Et puis, qui revient avec nous, Sophie de Menton. Sophie, ça va?
Oui, content de revenir.
Vous avez suivi tous les débats de ce matin, bien
sûr.
Évidemment. On va parler d'un sujet, c'est la France d'à peu près. C'est le thème de votre dernier ouvrage, le titre d'ailleurs de votre dernier ouvrage, Nicolas Bouzou. Pouvoir d'achat, santé, éducation, industrie, revenons à l'excellence. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a un certain déclassement. Le français râle, mais peut-être à escient.
Oui, alors on a un déclassement qui est relatif, en tout cas, c'est-à-dire par rapport aux autres pays, ça c'est clair, et dans les domaines que vous avez cités. Je prends la question des salaires. En fait, là, il y a beaucoup de salaires en France qui sont devenus objectivement bas, y compris les salaires bruts, hein, qui sont devenus objectivement bas par rapport à beaucoup des pays qui nous environnent, mais il faut essayer d'aller au fond des choses et de se demander pourquoi les salaires sont bas. Et en fait, les salaires sont bas en raison de performances économiques qui se sont dégradées, ce qui nous renvoie à des problèmes de compétitivité, des problèmes d'éducation, des problèmes de réglementation. Donc la question des salaires, c'est pas une question de distribution, ou c'est marginalement ou secondairement une question de distribution, c'est avant tout une question de performance économique.
On est moins bon.
Et en fait, ouais, on est moins bon. Et en réalité, alors,
c'est pas tellement qu'on est moins bon.
On est moins bon relativement aux autres, en réalité. Je pense à l'exemple des salaires parce que vraiment il est clair, hein. C'est-à-dire que on était un pays où les salaires étaient très élevés, et quand on regarde par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, par rapport aux autres, ça s'est vraiment considérablement dégradé.
Et ce n'est pas la faute de chefs d'entreprise.
Bon,
on y reviendra.
C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment derrière ça des problèmes qui sont fondamentaux, qui renvoient à des questions de formation, notamment, hein, pas que, et d'éducation. Alors là, dans l'éducation, vous me tendez la perche. En fait, à force d'avoir nivelé par le bas, à force d'avoir fait la promotion d'une forme d'égalitarisme, à force d'avoir critiqué la méritocratie, avec des traductions extrêmement concrètes. Je vais vous en donner une dont je parle dans mon livre, mais j'étais très intéressé de voir qu'elle recevait un écho quand j'en faisais la promotion. Le fait que les fautes d'orthographe aujourd'hui, bah, tout le monde s'en fout, en fait, y compris parfois dans l'éducation nationale. Bah, ça, c'est typiquement quelque chose qui fait partie du syndrome de à peu près, une espèce de démagogie, mais qui finit par avoir des conséquences qui sont très concrètes, y compris, Sophie, je parle à une spécialiste, des conséquences dans l'entreprise. Parce que quand vous avez des collaborateurs qui arrivent, qui font des mails truffés de fautes d'orthographe et de grammaire, ce qui rend plus difficile la communication, ça finit par poser des problèmes économiques. Donc vous voyez qu'on peut même faire un lien entre l'à peu près orthographique et, au bout du compte, les performances économiques, je ne parle pas...
Il faut faire un tout petit mot sur l'écriture inclusive, bah, qui est en train d'en rajouter sur les fautes d'orthographe. Il faut
d'accord.
Quand même le dire, parce que dans la France de l'à peu près, c'est très important, c'est interdit, et c'est en train d'avoir une vogue extraordinaire. On désobéit.
Alors, bien sûr. Elle vient de nous rejoindre, et je pense qu'elle a une excellente orthographe et une excellente grammaire. En tout cas, elle est entourée de livres sur l'écran qu'on peut voir derrière elle. C'est Agnès Verdier-Bolinier. Bonjour Agnès.
Bonjour à tous.
Directrice générale de la Fondation IFRAP, merci d'être avec nous, même à distance. On vient de dessiner un petit peu les concours de cette France de l'à peu près. C'est vrai avec cet exemple, hein, voilà, des salaires qui baissent, un espèce de laisser aller peut-être depuis 10-15 ans. On a l'impression qu'on a perdu un peu de compétitivité, même objectivement on en a perdu. Comment vous l'expliquez ?
Parce que surtout ce qui est très préoccupant, hein, dans les travaux qu'on a menés à la Fondation IFRAP, c'est qu'on voit qu'en part de richesse par habitant, on est en train de baisser dans le concert des nations. Dans les années 80, on était 11e en richesse par habitant. Aujourd'hui, on est 25e. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que notre PIB n'a pas grossi. Il a grossi, mais en fait, il a grossi moins vite que dans les autres pays. Et ce qu'on voit, c'est que nous, on est autour de 40 000 euros par habitant, alors que par exemple, les Danois, ils sont à plus de 60 000 euros par habitant. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que la France a perdu autant de place? Bah, nous, on l'a dit, moi je le dis beaucoup dans mon livre, hein, y a des vraies questions à se poser sur l'organisation autour de l'entreprise qui fait que finalement, on a des poids fiscaux chez nous qui n'existent pas ailleurs. Hein. Je fais tout un chapitre dans mon livre sur ce sujet. 148 milliards d'impôts, taxes, cotisations en plus par rapport aux pays de la zone euro hors France qui sont payés par nos entreprises et surtout des taxes de production. Hein. 49 milliards de taxes de production en plus encore aujourd'hui. Hein, et ça, c'est des chiffres de 2021, des chiffres qui sont très récents. Malgré les baisses qu'il y a eu, on a encore 49 milliards de taxes de production en plus à payer tous les ans dans nos entreprises. On a 84 milliards de plus de cotisations employeurs à la charge des entreprises tous les ans par rapport aux autres pays de la zone euro. Et en plus, et ça fait un peu écho à ce que disait Nicolas Bouzou, on a des niveaux de charges sur les salaires qui sont les plus élevés, au-delà de 3,5 SMIC, on est hyper chargé sur les hauts salaires. Et en fait, ces hauts salaires, on les trouve où ? On les trouve beaucoup dans l'industrie. Donc, résultat, on est désincitatif à embaucher, en fait, à créer des emplois à forte valeur ajoutée. Et quand on fait la comparaison avec l'Allemagne, il nous manque aujourd'hui 500 000 postes au-delà de 3,5 SMIC par rapport aux Allemands. Et ces 500 000 postes en moins qu'on a dans les emplois à forte valeur ajoutée avec des bons salaires, eh bien, on les a en plus sur les bas salaires. Donc, on est dans une sorte de trappe.
Et là-dessus, Agnès, pardon, mais pourquoi c'est la France de l'à peu près ? Alors, ça, on a bien compris que c'est un enfer. On est les premiers chefs d'entreprise à savoir tout ça. Mais alors, le colloque, c'était la panne. Donc, on a compris, y compris Arnaud Montebourg qui nous expliquait que c'est vrai, on a fichu les entreprises dehors. Et là, c'est pas la peine d'essayer de les faire revenir parce que pour elles, c'est un cauchemar. Mais qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi c'est à peu près ? Pourquoi on est quand même bon ? On a des politiques qui sont pas tellement plus mauvais que les autres. Comment on va y arriver ? Parce que c'est pas en donnant plus d'argent, c'est certainement pas en donnant des chèques. Diminuer, on sait très bien que diminuer les salaires et diminuer les dépenses, faut trouver l'argent ailleurs. Comment on va s'en sortir de cet à peu près et de cette mentalité qui nous fait plonger ?
Bah déjà, Sophie, il faudrait se poser la question de comment on utilise tout cet argent qu'on produit pour finalement financer le modèle social, l'État français et finalement les collectivités locales françaises. Et tout le monde est un peu co-responsable hein, dans cet à peu près parce que parfois on se pose les bonnes questions mais on ne va jamais jusqu'au bout
c'est vrai.
Du diagnostic. Nous, ce qu'on a montré à la Fondation IFRAP, c'est que finalement on a des services publics plus chers mais ils ne sont pas meilleurs en qualité. Et c'est le rôle du Parlement. Le Parlement ou la Cour des comptes, ils font des rapports, mais là encore, c'est à peu près parce que ils nous disent, par exemple, à la Cour, il faudrait faire 9 milliards d'euros d'économies par an. Mais ils disent pas où. Alors que vous prenez le même type de rapport produit pour le Parlement britannique, vous allez avoir la liste des économies à faire, à quel endroit, dans quelle administration. Vous allez avoir des auditions derrière au niveau du Parlement avec une sous-commission, la Commission des finances de la Chambre des communes, où les directeurs d'administration seront passés au grill, où on leur dira, mais attendez, là, il y a 1 milliard d'économies à faire, est-ce que vous pouvez le faire ? Oui, non, comment on va le faire, etc. Nous, ça se passe pas du tout comme ça. On a des parlementaires qui ont très, très peu de moyens, finalement, face à Bercy. On a donc cet à peu près permanent, c'est-à-dire les parlementaires ont de bonnes idées. Là, il y a des rapports justement sur le côté hyper bureaucratique de notre organisation qui sont en train d'être réalisés à l'Assemblée nationale. J'en ai lu un hier soir et finalement, on reste sur sa faim parce qu'on voit très bien qu'il manque de moyens pour étudier les choses dans le fond, avoir une vision à 360 degrés. Oui. Et le problème, c'est que on reste toujours un peu sur l'écume des choses. Et si on s'en réfère à tout ce qui s'est passé ces dernières années, où on avait déjà cette prise de conscience de la surfiscalité qui pesait sur nos entreprises, sur le fait que la France était championne du monde, en tout cas dans les pays développés, du niveau de fiscalité, on est en train de repasser devant le Danemark là pour 2022. Mais on ne s'est jamais posé la question, même avec la révision générale des politiques publiques, même avec la MAP, même avec CAP 2022, de comment revoir l'organisation des missions publiques, comment évaluer chaque euro d'argent public.
Donc c'est fichu alors ?
Non, pas du tout, parce que je pense que justement, il y a des telles marges de manœuvre, il y a des tels gaspillages, il y a des telles fuites dans tout le système. Malheureusement, il n'y a pas une grosse fuite à identifier, il y a plein de petites fuites partout, parce que finalement, on a de la redondance, on a chevauchements, on a des compétences qui sont partagées, donc il y a une dilution de la responsabilité. Il y a des choses à recentraliser au niveau de l'État, comme les aides sociales, et les distribuer au niveau de Bercy. Là, on ferait des économies énormes sur les dépenses, en fait, de coûts de distribution des aides. En plus, on ferait baisser la fraude. En plus, on ferait baisser le non-recours, parce qu'il y a...
Bien sûr.
Il y a de la complexité. Et puis, de l'autre côté, on pourrait décentraliser énormément de choses. Par exemple, l'éducation. Il n'y a aucun pays qui fonctionne avec un État qui a plus d'un million d'agents qui travaillent pour l'éducation. Et en réalité, c'est géré au niveau local et avec finalement beaucoup plus de pragmatisme, de choix, de possibilité, de liberté pour les parents et pour les élèves de choisir leur école, etc. Donc, tout ça, c'est à mettre en perspective. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que ça marche ailleurs. Oui. Je donne dans mon livre 20 propositions de principes qui sont appliquées ailleurs, au Danemark, en Suède, en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en Italie, et qui fonctionnent.
On s'oriente, bien sûr. Il faut trouver des réponses, et je pense qu'il y en a dans votre bouquin.
Il ne faut pas être défaitiste, parce que la France est un très beau pays, on a des entrepreneurs extraordinaires. Moi, ce que je trouve dommage dans la vision, justement, à peu près que décrivait Sophie, c'est que finalement, nos politiques ne sont jamais dans une logique de dire ce qui est notre bien commun le plus précieux au démarrage, ce sont nos entreprises, c'est elles qui créent la valeur ajoutée, c'est elles qui créent la richesse. Et finalement, j'ai encore discuté avec beaucoup de politiques ces derniers jours, et je trouve qu'ils ne remettent jamais ça au centre de leur réflexion.
Parce que c'est peut-être
tellement vrai.
Il y a peut-être une méconnaissance.
Le dénominateur commun de nos décisions publiques, ça doit être la question de l'entrepreneuriat, de comment on crée des entreprises, comment on les développe. Et alors, c'est le cas pour les normes, c'est le cas pour la fiscalité, c'est le cas pour toutes les contraintes qui sont votées à l'Assemblée et au Sénat. Et ce que je vois par rapport aux autres pays, c'est qu'ailleurs, il y a des vraies possibilités d'évaluer en permanence la surcharge que va faire peser telle ou telle loi, tel ou tel amendement. La loi climat-résilience, par exemple.
Alors, attendez, juste une seconde, Agnès Vernier-Meunier. On va faire réagir aussi Nicolas Bouzeau qui est en plateau. Vous avez parlé dans votre livre, donc à peu près énergétique, sanitaire, éducatif, avec ce très bon exemple de l'orthographe. Et puis, le risque que ça entraîne, c'est-à-dire, aussi au niveau politique, le risque de populisme, risque de, d'explosion. On se sent complètement décoré de tout ce qui se passe. Puisque Agnès évoquait à l'instant les solutions, pour vous, ça passe aussi, à part connaître peut-être mieux le tissu économique et industriel, par revaloriser un certain niveau d'excellence.
Oui, mais je voudrais vous prendre un exemple très concret, parce que les grandes idées, on sait grosso modo ce qu'il faut faire. Mais ce qui est difficile, c'est de proposer des choses concrètes et qui sont applicables tout de suite. Alors, votre colloque s'appelle « Comment expliquer la panne de production française ?» Aujourd'hui, en matière de production, notamment dans l'industrie, il y a un frémissement. Il se passe quelque chose, il y a énormément de projets d'implantation en France, ils ne sont pas très gros, mais il y en a beaucoup. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur les mises en chantier d'usines. On voit que la production industrielle monte un peu. Donc, il y a véritablement quelque chose. En matière de fonctionnement du marché du travail, on est redevenu un pays à peu près normal. Ça prouve qu'on peut faire des choses. En matière de fiscalité du capital, on est revenu dans la moyenne des pays de l'OCDE. Et ça prouve qu'on peut faire des choses. Et en matière de fiscalité des entreprises, on s'est aussi à peu près normalisé. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des choses. Aujourd'hui, le grand sujet, la grande difficulté, et notamment celle qui pourrait mettre en panne la réindustrialisation, c'est la complexité des normes et la judiciarisation des projets. Donc, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Alors, le ministre de l'économie est en train de le faire avec une loi qui s'appellera la loi Industrie verte, qui est censée simplifier un certain nombre de normes. Mais je voudrais vous donner un exemple très concret, parce que Sophie m'a dit, il faut être concret, et je partage. Donc, je mets en débat, moi, une mesure qui est très concrète. Aujourd'hui, quand vous voulez faire une usine, c'est très compliqué, parce que vous avez un article de loi qui s'appelle le ZAN, le zéro artificialisation net, qui fait que si le maire vous octroie un permis de construire de 100 hectares pour faire une usine, il faut qu'il détruise 100 hectares de logements ou d'usines ailleurs, ce qui est évidemment absolument impossible. Je considère que les projets industriels devraient déroger à ce zéro artificialisation net. Là, vous voyez, je vous fais une proposition de simplification qui est extrêmement concrète, qui d'ailleurs, puisque Agnès Verdier-Meunier parle du Parlement à fort juste titre, qui pourrait d'ailleurs être portée par des parlementaires et pas nécessairement par le gouvernement. On pourrait avoir, pour une fois, une loi. Il y en a quelques-unes. Guillaume Casbarian en a fait une sur les squatteurs. On peut avoir des lois qui sont proposées par le gouvernement.
Les écolos ont un malaise dans l'Assemblée.
Non, mais ça, c'est pas mon problème. Non, mais je veux dire, ils ont un malaise. Mais de toute façon, quoi qu'on dise, nous, ils ont un malaise. Donc, si vous voulez, je ne vais pas m'arrêter au malaise de ceux qui se décrivent comme étant des écologistes alors qu'ils ne le sont pas. Parce que tout ce dont je viens de parler vient d'aboutir, il y a une semaine, à ce que l'usine Bridor qui devait se faire en Bretagne, les viennoiseries, ne se fasse pas en France.
Mais oui.
Parce qu'elle se fera. Elle se fera au Portugal. Donc, l'usine, elle se fera. Sauf que les croissants seront réacheminés en France en avion, avec une empreinte carbone supérieure. Donc il est hors de question que je me laisse donner quelconque leçon par des écologistes qui sont des verts déguisés en rouge.
Bravo. Non mais c'est incroyable, c'est effectivement le DUF, c'est membre éthique, on est atterré par ça.
Bien sûr.
Il devait mettre 3 ans pour... Il a des milliers d'emplois, des centaines, des dizaines de milliers d'emplois dans le monde, etc. Comment est-ce qu'on peut laisser... Et alors, mais là, en fait, la vérité là, de la question, c'est qui, lorsqu'il y a un cas comme ça, peut intervenir? On a l'impression qu'il n'y a personne qui tient les rênes. Quand même vous avez un industriel dans le monde entier qui réussit, qui se bat, qui voit localement les gens, mais qui au sein du gouvernement pourrait dire bon allez hop on arrête
les gros projets qui sont soutenus par l'État, c'était le cas de Prologium par exemple dans les Hauts-de-France, ils passent en fait. Là, ce projet est pas passé justement parce qu'il n'était pas aussi gigantesque qu'une gigafactory de batteries et donc en fait il n'y avait pas de soutien explicite de l'État. C'est pour ça que je pense qu'il faut
passer par du non-soutien de l'État.
Non, mais c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut passer par des simplifications en fait.
Oui.
Alors on est en France donc il faut ça passe par des lois. J'en suis désolé mais c'est notre système, c'est comme ça. Il y a un moment où faut en passer par là. Il faut que de nouvelles lois effacent les anciennes lois, ce qui est pas quelque chose qui se fait automatiquement en France. Mais donc le sujet numéro un, c'est un sujet de simplification. Et alors, puisque vous voulez qu'on soit précis, je vais l'être encore plus sur la méthode. Nous sommes un pays, malheureusement je le déplore, mais c'est comme ça depuis l'Ancien Régime, et ça a été renforcé par la Révolution, nous sommes un pays centralisé. Le sujet de la simplification est pour moi un sujet présidentiel. Donc il faut que le sujet de la simplification soit porté au plus haut niveau pour qu'il ait ce capital politique.
Et pourtant, on en a parlé ce matin avec un ministre de François Hollande, Arnaud Montebourg, à l'époque ministre de l'économie. Il était en plein dans ce choc de simplification. Il a dit 10 ans après, c'est encore plus complexe. Agnès Verdier-Molinier, votre avis, là, choc de simplification bis?
Écoutez, je suis complètement d'accord avec Arnaud Montebourg. Je trouve ça incroyable ce qui s'est passé ces dernières années. En 2008, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait prévu de développer un modèle d'évaluation de la charge administrative qui pesait sur nos entreprises.
Oui.
Ça a totalement disparu. Tout ça parce qu'il manquait quelques millions d'euros pour boucler le budget. Pendant ce temps-là, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, partout, ils ont évalué en temps réel la charge administrative qui pèse sur les entreprises. À la Fondation IFRAP, on a été les seuls à chiffrer la charge administrative qui pèse aujourd'hui sur les ménages et les entreprises. On pense que c'est une centaine de milliards d'euros par an, dont 80% à la charge de nos entreprises, c'est-à-dire 80 milliards d'euros qui devraient avoir baissé ces dernières années parce que la Commission européenne, tout en nous finalement en donnant parfois aussi des suppléments de normes sur nos organisations, demande aussi de baisser de 25% les normes existantes, notamment qui entravent le développement des entreprises. Les Belges l'ont fait, ils ont évalué en permanence. Les Allemands ont un outil qui s'appelle le Norman Control Rate, qui évalue en permanence justement les charges administratives sur les entreprises et les ménages. Nous, c'est incroyable ce qui s'est passé. Avec le choc de simplification, etc., on a créé le Comité national d'évaluation des normes, mais qui n'évalue les normes que pour les collectivités locales. Tenez-vous bien. C'est-à-dire que l'administration veut bien créer des outils pour les organismes publics, mais alors, pour les entreprises, il n'y a pas d'évaluation en temps réel. Et typiquement, la loi climat résilience qui a installé ce système-là avec les ZAN, le zéro artificialisation, est-ce que vous croyez qu'il y a une étude d'impact, une évaluation,
que
ce soit ?
Jamais une étude d'impact.
Alors, il y a une étude d'impact, mais elle est totalement technocratique, il faut le dire. C'est une étude d'impact, quand vous la lisez, il n'y a rien sur finalement qu'est-ce que ça va coûter aux entreprises. Est-ce que finalement ça ne va pas empêcher des entreprises de développer. Est-ce que ça ne va pas détruire des emplois? Combien ça va en créer? Parce qu'ils disent que ça va créer des emplois, mais ils ne disent pas combien, ils ne disent pas dans quel secteur. Et nous, quand on a dit, à l'époque, hein, quand la loi a été votée, et même avant, quand elle a été discutée, j'ai fait des papiers avec mon équipe, et puis on a publié sur le site de la Fondation IFRAP, mais aussi dans le Figaro ou ailleurs, en disant, mais attendez, cette étude d'impact, elle est en dessous de tout. Mais personne n'en a parlé. Puis maintenant, tout le monde dit… Ah, là,
mais est-ce que
fou,
vous pourriez pas prendre rendez-vous avec le président de la République quand même? Parce qu'il y a un moment, il va falloir lui expliquer, Agnès. Et moi, je pense que… Non, mais c'est à ce niveau-là. Ou la première ministre, parce que ça dépend quand même beaucoup de la première ministre qui n'a pas du tout cette mentalité d'évaluation, etc. Mais il faut aller lui dire. Vous avez pris rendez-vous avec Macron? Alors,
c'est vrai que depuis que j'ai sorti ce livre, j'ai été contactée par l'Élysée, j'ai été contactée par Bercy… même les grands directeurs d'administration souhaitent échanger avec nous, et c'est quand même très très encourageant et c'est très positif et ça va dans le bon sens. Donc maintenant que tout le monde qui était en train de sauter comme des cabris pour dire oui il faut dépenser le plus d'argent public possible, c'est le quoi qu'il en coûte, c'est génial, c'est l'argent magique et tout, et c'était incroyable de voir à quel point tout le monde se convertissait à cette dépense à gogo. Tout d'un coup maintenant on est en train de dire bah oui, ce serait bien de regarder comment utiliser l'argent public. Ce serait bien aussi de réduire les normes, ce serait bien de l'évaluer, mais on a perdu tellement de temps avec cette anesthésie qu'on avait et qui faisait qu'on a arrêté plus l'économie en France qu'ailleurs en 2020. Ça nous coûte aujourd'hui potentiellement très cher. Et donc, oui, ça nous coûte plus cher. Pourquoi ? Parce qu'on a une charge de la dette qui est en train de monter de manière exponentielle, parce qu'on a des taux qui sont en train de monter aussi sur les taux à 10 ans. Alors, c'est vrai que ça pourrait monter encore plus vite. Là, on est autour de 3%. Mais il faut savoir qu'on a toute une partie de la dette qui est indexée sur l'inflation. Nous, on avait tiré la sonnette d'alarme sur ce sujet à la Fondation IFRAP. À chaque fois qu'on décide finalement de prendre des décisions qui, derrière, vont augmenter la charge de la dette annuelle, ben, c'est autant d'argent qu'on ne dépensera pas ailleurs.
Nicolas Bouzou, réaction, et puis après, ce sera le moment de conclure.
La question de la préparation des réformes et de l'évaluation, alors là, on est typiquement dans l'à peu près en France. Je vous prends un exemple encore très précis, la réforme des retraites. Pour y revenir, demain, le Conseil d'orientation des retraites publie son rapport annuel, ça va être très, très intéressant. J'ai soutenu la réforme des retraites, j'étais pour. Voilà. Mais simplement, c'est une réforme qui n'a pas été évaluée au préalable, et c'est une réforme dont j'ai peur qu'elle ne fasse pas l'objet de beaucoup d'évaluations ex post. Elle n'avait pas été évaluée au préalable. C'est quand même un truc incroyable. Quand la première ministre a annoncé 1 200 € de pension pour tout le monde, sur un coin de table, voilà, en faisant le calcul, je me souviens, j'ai fait le calcul sur le moment, etc., je voyais bien que c'était absolument impossible. Vous voyez, donc là, on a un problème, mais je le dis de la réforme des retraites, mais c'est vrai de l'ensemble des réformes.
C'est
on
ça,
a un problème
peu
de
près.
Préparation des réformes. On a aussi un problème d'évaluation. Je vous donne un exemple qui est non économique, mais qui m'a beaucoup frappé, parce que je me suis retrouvé l'autre jour assister à un débat là-dessus, sur la loi Claeys-Leonetti, dont on parle beaucoup, sur la fin de vie et les sédations profondes. Savez-vous que dans notre pays, nous ne sommes même pas capables de compter le nombre de sédations profondes qui sont pratiquées tous les ans? Donc on a fait une loi qui autorise la sédation profonde, c'est très facile à compter, il suffit de compter. Vous demandez aux hôpitaux combien ils en font, c'est extrêmement
simple. Qu'est-ce que c'est précisément la sédation
jamais...
Qu'est-ce que c'est exactement la sédation profonde?
C'est quand quelqu'un est en fin de vie, on lui administre une sédation extrêmement forte qui va le faire décéder. Donc,
d'accord.
C'est quand même,
voilà. Donc il ne se réveillera pas.
Il ne se réveillera pas, donc c'est quelque chose qui est très important. Et on débat de la fin de vie en ce moment. Eh bien, nous n'avons même pas cette information qui serait très facile à avoir. Donc là, vous voyez qu'on a un problème qui est un problème non pas seulement d'idéologie, de,
mais peut-être de dilution de responsabilité.
Et de dilution de responsabilité, bien évidemment. Absolument.
Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui tient tous les éléments et qui est responsable. C'est
exactement.
Absolument...
Mais rappelons-le, on a aussi une société qui est extrêmement complexe, donc c'est dur d'en connaître tous les contours. Il faut s'y appliquer et justement essayer d'évaluer au mieux et de réduire notre marge d'à peu près, parce que sinon là on est un peu moyen.
Alors là, ça c'est le mot de la fin, Nicolas. Comment on réduit en une phrase, tous les deux, comment on s'en sort? Ah ben vous avez droit à deux phrases.
Ben, je vais être très rapide pour laisser Agnès conclure. Je pense qu'on a un travail idéologique à faire qui est très important, qui consiste à revaloriser l'excellence et à combattre l'égalitarisme qui est en train de tout niveler par le bas. Et vraiment, il ne faut pas avoir peur de ça. Les gens les plus populaires dans notre pays, moi je l'ai bien vu avec la promotion de mon livre, c'est eux qui veulent le plus l'excellence parce que c'est eux qui savent que c'est ça qui permet de monter par l'escalier social. Donc on a vraiment ce travail à faire. C'est aussi un travail, vous le faites, à faire dans les entreprises.
Agnès Verdier-Monnier, votre mot de conclusion.
Écoutez, moi j'aimerais qu'on respecte l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tous citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement et d'en suivre l'emploi. Je trouve qu'en France, on ne respecte absolument pas ce principe constitutionnel et que finalement, ça nous appauvrit collectivement parce qu'on dépense sans compter, derrière on taxe sans compter, et le manque de compétitivité de nos entreprises qui fait que nous produisons moins en France n'est que le reflet du manque de compétitivité de notre sphère publique. Et par ailleurs, dans notre sphère publique, nous payons trop de personnes à rédiger des rapports pour dire que les riches ne sont pas assez taxés, que les entreprises ne sont pas assez taxées. C'est absolument incroyable de voir le nombre de chiffres qu'on laisse passer dans le débat public, comme par exemple ce dernier chiffre qui est sorti sur le fait que les milliardaires ne paieraient que 2% de leurs revenus en impôts en réintégrant des revenus non distribués, ce qui est quand même une méthode de calcul totalement aberrante. Là encore, ça fait du mal aux entrepreneurs, ça fait du mal aux entreprises, ça fait du mal à la production en France. Donc, je trouve qu'il faudrait aussi avoir un moment des débats beaucoup plus libres avec du contrefactuel, avec des capacités de chiffrage en dehors de la sphère publique. Et c'est ça qui est dommage chez nous, c'est que finalement, ce sont toujours ceux qui travaillent à l'intérieur de l'administration qui ont le dernier mot sur ces questions. Et je crois que la société civile, les entreprises, mais aussi tous les citoyens de ce pays doivent à un moment s'intéresser beaucoup plus à toutes ces questions. On produira forcément beaucoup plus en France quand on se saisira de ces questions qui nous appartiennent.
Exactement. Transparence pour l'un, excellence pour l'autre. Merci. On renvoie à vos deux ouvrages. Où va votre argent, Agnès Verdier-Molinier, La France de l'à-peu-près, Olivier Bouzou, Sophie de Menton.
En fait, pour résumer ce que vous avez dit tous les deux, je crois qu'il faut inverser les choses. Il faut que l'État, que le gouvernement, que les assemblées prennent modèle et consultent les entreprises. Non, c'est vrai, les administrations ne sont pas des entreprises comme les autres, mais il y a des méthodes, la rapidité, l'évaluation, etc., qui sont les nôtres, et il faut inverser le rapport de force, ce n'est pas à l'État de gérer nos boîtes.
Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. L'ensemble des échanges à retrouver, bien évidemment, en replay. Merci Agnès Verdier-Molinier, directrice générale de la Fondation IFRAP. Merci Nicolas Bouzou, économiste. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont préparé ce colloque éthique. Merci à la technique ici à Web Radio Édition. On se retrouve très prochainement pour un nouveau colloque. À très bientôt. Bonne journée.
Comment expliquer la panne de production française ? Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14 juin 2023.